48 FM.
C'est les Split John au couloir numéro 2. Allez, les c'est parti pour les Split John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et salut à tous, merci d'éteindre ton téléphone. Patrick, on est de retour pour une quatrième saison de l'Instant Sport avec nos chroniqueurs dans les starting blocks prêts à se lancer dans cette nouvelle saison. D'ailleurs, il s'est entraîné au micro cet été pour être fin prêt aujourd'hui. Aurélien Lacaze, salut.
Salut, bonjour à tous.
Prêt, affûté, en forme?
Archi prêt, très heureux de vous retrouver.
Alors tu as remarqué que dans affûté, il y a fût.
Oui.
Je dis ça, je dis rien.
Il y a thé aussi.
Il y a thé aussi, c'est vrai.
Il y a futé.
Et il y a futé aussi.
Ça se voit, hein,
ouais.
Hein.
Avec une très belle interview de Cali.
Voilà.
Vraiment, il est assuré. Quoi.
Ouais, des belles assuré. Photos merci. De cette interview. Ouais. Je vous conseille d'aller voir sur la page Facebook de 48FM. Laurent Julien est là également. Salut Lolo.
Ouais, salut, bonjour tout le monde.
Prêt physiquement pour une nouvelle saison?
Oui, voilà. Bah, je me suis préparé à la Ronaldo le portugais avec beaucoup d'abdominaux cet été. Et voilà, ça paye.
D'ailleurs, on est allé courir avec Laurent cet été.
Mmh. Ah.
Une fois.
Ouais, c'est bien, écoute. Hein. Missotte-Loire va bien?
Oui, très bien, ouais, ça va.
Bon.
Oui, en effet, je vois que t'es bien informé.
Et ouais, je suis bien informé.
Mais pour moi, Missotte-Loire, c'est quand même ma femme, quoi, pour commencer. Quoi.
C'est vrai.
Ouais.
C'est beau ce que
mais
tu
voilà,
dis.
C'est
un sport placé sous le signe de l'amour. Ouais.
Oui, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Miss Haute-Loire, donc voilà, on a fait une petite photo souvenir.
Future Miss Auvergne et peut-être voilà. Future Miss France.
Certainement, qui sait, d'ailleurs, oui.
Hein, pour gagner des points au jeu des pronostics. On en parlera d'ailleurs des pronostics tout à l'heure. Julien Gall a fini sa préparation en écoutant les 8 saisons des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Salut.
Ouais, ben salut, bonjour à toutes et à tous. Ravi de reprendre cette nouvelle saison et puis d'en attaquer une.
Tu vas pouvoir balancer des vannes
ouais,
en plus là.
J'avais été recruté au Mercato
d'hiver.
Ouais, c'est vrai, Mercato, ouais. On a fait un bon coup là au Mercato. Hein.
C'est vrai, on n'a pas été mauvais.
Pas cher en plus.
Allez, enfin, le champion 2016-2017 des pronostics de l'Instant Sport, notre Champions Project Domino Pizza est là, Patrick Biancon, salut.
Salut Ludo, bonjour à mes coéquipiers et bonjour à toutes et à tous.
Voilà, alors, parce que, bon, on va déjà s'excuser pour commencer cette émission auprès de nos auditeurs pour la fin de la saison dernière qui a été un peu catastrophique entre les ponts, les vacances, les élections législatives. Cette saison s'est finie en eau de boudin, mais vous inquiétez pas, on est bien de retour. On rappelle que Patrick a été le grand champion des pronostics Instant Sport 2016-2017. La coupe est en commande, on devrait l'avoir dans pas longtemps.
Et je remets le titre en jeu, bien évidemment, pour cette année.
Ouais, bon, non, mais moi, aucune chance pour, comme d'habitude, puisque vous connaissez mes qualités de pronostiqueur. Juste, tu disais que la saison s'est finie en eau de boudin, pas pour tout le monde, puisqu'il faut rappeler quand même que l'AFL a gagné la coupe Garloser en fin de saison dernière. Donc voilà, il fallait le dire, on l'avait pas
pour
dit
nous, elle s'est finie en eau de boudin.
Oui.
Ouais, ouais.
Oui, voilà, non, mais c'était l'occasion
non, les
de
clubs,
rebondir.
Oui, et le MVL, mais on va en revenir en faisant la présentation de la saison. On reviendra un peu rapidement sur la fin de saison dernière. Tu voulais dire quelque chose aussi avant de commencer, Lolo?
Oui, voilà, je voulais dire un petit mot pour deux figures lausériennes sportives qui nous ont quittés cet été. Donc je voulais rappeler... le décès de Laurie Julien, qui était une sportive aguerrie, qui finissait régulièrement dans les premières lausériennes au Marv Jolmand. Et on avait pensé l'inviter ici à cette émission, et ça n'avait pas pu se concrétiser. Et puis je voulais parler aussi de Jean-Paul Sanchez, qui était la Bible et la mémoire du sport en Lozère, et pas que, un grand passionné de sport qui nous a aussi quittés. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je vous en parle aujourd'hui.
Voilà, on pense bien entendu et à leurs proches. L'actualité pour commencer, c'est bien entendu le football qui a repris avec l'AFL. qui, après une préparation impressionnante, ne trouve pas encore ses repères en championnat. Premier match perdu à Fabregues, 2-0. Aurélien y était, il va nous en dire un mot. Avant d'obtenir le nul sur sa pelouse contre Canet, puis ce week-end, nouveau nul à Alès, qui est tout de même en tête de ce championnat. But d'Ndiaye à la 54e, égalisation d'Alès en fin de match à la 82e. Du coup, au classement, l'AFL est pour le moment 11e avec 2 points. Classement, bien sûr, à relativiser, vu que nous sommes qu'à la 3e journée de championnat. L'an dernier, ça s'est joué à rien, cette montée, il fallait gagner le dernier match, et on a appris, Patrick, par la suite, que même si on avait gagné ce dernier match, ça n'aurait rien changé, on n'aurait pas pu monter.
Alors, j'ai essayé de l'expliquer avec l'aide du président Philippe Lorient, et j'ai essayé d'être clair. D'après les retours que j'ai été à demi clair, mais quand même à peu près tout le monde a compris au niveau des supporters. Donc c'est vrai, maintenant on peut le dire, même une victoire à Chamalières, le dernier match, n'aurait pas permis à l'AFL d'être en CFA, qui s'appelle maintenant le National 2. Alors, pour une raison, on va pas refaire l'histoire, mais pour une raison toute simple, c'est que il y avait les 4 meilleurs secondes sur les 8. Donc, on n'aurait pas été dans ces 4 meilleurs, parce que c'est vrai que Limonest nous a plombé sur ce dernier match en gagnant à Loan Cuiseau. Et donc, voilà. Et après, il y a eu des clubs qui n'ont pas été autorisés à monter. Mais ce n'est pas les 5e ou 6e meilleurs secondes qui étaient repêchés. C'était ceux qui descendaient de CFA à CFA2. Et donc, ça profitait, par exemple, à Paulin Pézenas, qui était relégué sportivement, mais qui a été repêché. Donc, au final, c'est vrai qu'on a eu une grosse déception. Mais déception toute relative, puisque ça aurait été encore pire, puisque si on avait été là second et que à cause de cette règle des meilleurs seconds on n'aurait pas accédé, ça aurait été à mon avis encore pire. Donc voilà, pas de regret au final, puisque quand même Saint-Priest était premier, quasiment pas inaccessible, mais quand même un leader plus que devant dans cette poule de l'année dernière.
On sait ce qu'ils ont fait ce début de saison, Saint-Priest ?
Eh ben, ils ont d'excellents résultats, parce que d'après ce que j'ai vu, je crois qu'ils ont gagné un match, c'est sûr, peut-être même deux, parce que le CFA a commencé un week-end précédent, donc ils devaient être à 4 matchs, je pense qu'ils en ont gagné au moins 2, donc excellent début de saison de Saint-Priest.
Ok, on va éteindre les téléphones parce que ça fait que grésiller. Je sais pas c'est lequel d'entre vous, mais on va pas prendre davantage de nuisances sonores pour cette émission. Merci les gars. Une saison exceptionnelle, hein, rien à dire, parce que après une montée terminée à ce niveau-là, c'était inespéré, on peut le dire. Hein, on y croyait, on l'espérait en tant que supporter, mais on n'y croyait pas, parce que c'est extrêmement compliqué cet écart entre ces deux divisions-là, et au final vraiment époustouflant.
Oui, on a vécu de grands moments, surtout dans cette fin de saison, avec des matchs face au premier, et donc des victoires tous les week-ends. Moi, je me souviens de ce match contre Loan Cuiseau, à 2 journées de la fin, au chapitre, où il y avait une ambiance exceptionnelle, avec des tribunes archi-combles. Loan Cuiseau, un immense budget, qui avait encore une chance de monter. Il fallait qu'ils gagnent eux aussi les 2 derniers matchs. Et donc, il y a cette victoire 1-0. Voilà, c'est un souvenir que j'ai de cette saison. Il y en a bien d'autres. Et donc, c'est vrai qu'on a vu du grand AFL tout au long de ce championnat de CFA2.
Allez, on va parler de cette nouvelle saison avant de s'interroger sur ces 3 premiers matchs. L'effectif. Qui veut me parler de l'effectif, savoir comment il a évolué, Julien?
Au niveau de l'effectif, donc, il y a eu plusieurs arrivées. Notamment une qui a été assez remarquée, donc celle de Ndiaye, qui arrivait de la réserve de Niort, qui a fait une bonne préparation puisqu'il a marqué à tous les matchs à part le dernier où ils avaient gagné 4-0 contre Itrac, je crois. Mais il fait en plus un assez bon début de saison puisque c'est lui qui marque à Alès.
Ensuite, on peut rappeler que c'est le même profil que le précédent attaquant qu'on avait. C'est un très grand joueur fin. C'est le même profil que
Diallo,
Abdoulaye Diallo,
ouais,
qui nous a quitté.
Ouais, qui est parti en CFA. Ensuite, il y a aussi eu des arrivées, Johan Malo, Jérémy Fabre, Léo Bourré. Et un peu plus tard dans l'intersaison, 2 défenseurs, Rifa et Geoffrey, qui ont rejoint le groupe et qui étaient tous les deux du déplacement à l'Est ce week-end. Donc un effectif plus... en quantité que par rapport à la saison dernière, puisque seuls Yanis et Abdou Diallo ont quitté l'AFL.
Yanis qui est parti
à Martigues. Et Abdou Diallo qui est parti à Granville. Tous les deux en CFA.
C'est deux grosses pertes quand même hein, pour le club au vu de la saison dernière.
Oui, c'est sûr qu'au vu de leur saison, au vu de leur saison respective, on a perdu de la qualité, pardon. Mais comme l'a dit Laurent, c'est vrai que Ndiaye s'inscrit un peu dans le profil de Abdou Diallo. Et au milieu de terrain, il faut encore, je pense, chercher la bonne formule parce que c'est vrai qu'Yanis a fait plusieurs bons matchs la saison dernière. Et Jérémy Fabre qui arrive de Rodez et Johan Malo qui arrive de Yzeure sont un petit peu dans ce même profil de jeu. Un petit peu 8-10 capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. Puis c'est à eux aussi de s'imposer. Hein. C'est un début de saison, il faut trouver les automatismes. Et sur le début de saison, là, deux matchs nuls et une défaite, on voit que c'est compliqué de
sachant qu'il y a certaines de ces recrues qui vont évoluer en deux, Patrick. On peut l'imaginer.
Oui, bien sûr. Je crois que ça a été un recrutement global de la part des coachs et des dirigeants pour étoffer... en quantité cet effectif, c'était un peu le point faible l'année dernière. On manquait, c'est vrai, de joueurs au niveau quantité, donc il a fallu remédier à ça. Et donc bien sûr, l'objectif aussi, c'est bien de renforcer l'équipe 1, mais aussi de penser à la réserve qui est promue en DHR, on s'appelle maintenant Régional 2. Mais donc c'était voilà un recrutement global et c'est vrai qu'il y a des recrues qui vont évoluer en réserve dans un premier temps en essayant de bien sûr de gagner sa place pour la première. Mais il y a une recrue dont on n'a pas parlé et qui moi m'a fait une énorme impression ce match contre Canet à domicile. C'est Lionel Bicon qui a été recruté parce que tu parlais de la coupe la finale de la coupe Garloser, donc c'était contre Rousson et donc il jouait à Rousson l'année dernière, il avait fait un énorme match contre l'AFL lors de cette finale et donc le coach Fébrère a immédiatement demandé aux dirigeants de faire le nécessaire pour qu'il puisse venir à Mende et donc ça s'est fait et contre Canet ben j'ai vu un joueur vraiment qui a largement sa place en National 3. Vraiment explosif au milieu hein, et puis bon un abattage énorme et donc une présence physique et puis même une orientation du jeu techniquement capable de faire des passes, des décalages donc j'ai trouvé vraiment un excellent joueur au milieu de terrain.
On peut le qualifier comment ce recrutement cette année?
C'est un recrutement, mais comme le président Laurère me l'a expliqué bon dans l'interview que j'ai publié là à l'intersaison. Il faut pas rêver quoi. Si au niveau des supporters on attend qu'à l'AFL on va faire signer un gars qui a passé 5 ans en national ou 10 ans en CFA, bon ben c'est impossible. Donc
c'est le pari.
Voilà, le recrutement de l'AFL, c'est quoi? C'est des joueurs qui ou ont été blessés quasiment toute l'année ou qui pour une raison ou une autre ne sont pas entrés dans les plans de leur entraîneur et donc qui ont fait une saison quasi blanche et donc qui voient en l'AFL le moyen ben, de se relancer. Alors on peut citer là-dedans le cas de Ndiaye, on en parlait, qui a fait une saison quasiment blanche à New York puisqu'il je crois qu'il a joué 4 ou 5 matchs. Donc voilà, c'est ce profil-là ou alors des jeunes et qui viennent d'un niveau de division inférieure et qui là aussi ben en venant à Mende franchissent un palier et peuvent essayer d'aller plus haut. Donc c'est un peu ce recrutement-là, cette ambition-là de la part des dirigeants et des coachs et ben on comprend tout à fait. Hein.
Alors une super préparation, hein. Oui. On a vu les matchs amicaux qui se sont extrêmement bien déroulés. Viens ce premier match.
Juste d'aller départ, là, on a cité deux départs, mais il y en a un troisième. C'était un joueur polyvalent, Souleymane Camara, qui nous a quittés, puisque on parlait tout à l'heure des effectifs de fin de saison, que c'était un peu juste, puisque Souleymane était milieu de terrain et il s'était retrouvé libéraux en fin de saison, puisqu'il y avait des suspendus et etc. Et donc c'était un joueur polyvalent qui avait très bien dépanné. Malheureusement ou heureusement pour lui, pour des raisons familiales, il nous a quittés. Donc il fallait évidemment recruter des joueurs surtout sur la défense. Donc c'est pour ça que le club a mis l'accent plutôt sur le côté défensif, entre autres.
Ok, merci Lolo. Oui. Donc je disais, match amicaux qui se sont très bien passés. Arrive ce premier match de championnat Fabreg. Tu y étais, Aurélien.
Oui, tout à fait.
Le chat noir de l'AFL.
C'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, peut-être que je suis le chat noir, effectivement, puisque c'était la première fois que j'allais voir un match de l'AFL, puisque les week-ends, je suis pas trop disponible pour aller les voir ici à Mende. Et j'espère que je suis pas le chat noir parce qu'effectivement c'est difficile de raconter ce match puisque ça a été un non-match carrément. Alors c'était le premier match de la saison, ça peut expliquer peut-être quelque chose. Il y avait aussi des conditions climatiques qui étaient auxquelles on n'est pas forcément habitué. Il y avait beaucoup de vent, comme souvent dans cette région du côté de Montpellier, Fabrègues, etc. Et c'est une donnée que les Lausériens n'ont pas su du tout apprivoiser. Donc ça les a considérablement gênés. Mais mis à part ça, il n'y avait aucune cohésion d'équipe, vraiment pas beaucoup de passes. Très peu d'occasions, donc beaucoup de pertes de balles, etc. Donc ça a été difficile pour eux de vraiment mettre en place leur jeu et de montrer ce dont ils sont capables, puisque je ne doute pas qu'ils sont capables de mieux que ça. Mais c'est vrai que ce premier match a été très très difficile. Ouais.
Ouais, chaque année, il y a des matchs où on passe à côté. C'est arrivé l'année dernière sur un ou deux matchs. Et puis là, cette année, on l'a fait sur le premier match. Donc maintenant, on est tranquille. Et puis on verra après, quoi.
Après, venu Canet, tu étais, Patrick ?
Oui, malheureusement, on a vu une première mi-temps qui était dans le droit fil de ce que Aurélien vient de nous expliquer. Première mi-temps contre Canet, on n'a absolument rien vu. Hein. Je dis franchement, rien à retenir des 45 premières minutes. Donc on peut imaginer que dans les vestiaires, il y a dû y avoir une bonne soufflante du coach et peut-être même de certains dirigeants. Et donc on a vu un tout autre visage en deuxième mi-temps. Et là, c'est vrai que l'AFL a outrageusement dominé cette équipe de Canet, qui était regroupée, on aurait dit un peu Luxembourg, pour ceux qui ont vu le match hier. Et donc, il y a eu d'énormes occasions, un sauvetage sur la ligne d'un défenseur, sur une frappe de Fadil, et puis surtout deux arrêts vraiment de très grande classe de ce gardien catalan, en particulier sur une tête à bout portant de Dorian Rebolloso, qui l'a sorti d'un miracle, et puis il fait un arrêt du pied aussi sur un tir croisé de Fadil. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude en principe de le voir marquer sur ce type d'action. Bon, voilà, pour une fois, le gardien a gagné ce duel. Donc c'était en fait deux points de perdu, parce que sur la deuxième mi-temps, l'AFL méritait largement de l'emporter. Et donc au final, on se retrouve à deux points sur neuf possibles. Donc pour les élèves qui font leur entrée aujourd'hui, si vous obtenez un 2 sur 9 au bout de quelques semaines, bon, vous êtes pas bien classé au classement, et donc c'est le cas de l'AFL. Donc oui, un début en demi-teinte.
Non, mais un début en demi-teinte, Patrick, je voulais relativiser, parce que quand on regarde le classement, on a joué à l'extérieur quand même deux matchs, un à domicile, et à l'extérieur on a joué contre donc chez le premier, Alès, et chez le troisième, Fabrègues. Bon, alors certes, c'est que le troisième match de la saison, mais enfin, ça veut dire quand même qu'on n'a pas joué contre des piches non plus.
Non, et puis on a parlé des deux premiers matchs, mais le troisième a été beaucoup mieux, d'après ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Le premier match, oui. Le déplacement chez le leader à l'Est, comme tu dis, Laurent, ça a quand même été beaucoup mieux.
Après, voilà, après la saison dernière, on ne s'attend pas à démarrer sur deux nuls, une défaite sur les trois premiers matchs. C'est dans ce sens-là qu'on...
Cela dit, l'année dernière, on n'avait pas super bien attaqué non plus.
C'est le problème.
On avait
alors gagné,
certes, à domicile contre Chamalières, mais péniblement, contre une équipe qui montait, elle aussi, de DH. Et après, ça avait été un match nul à Cournon. Alors, quand on regarde le classement final, Chamalières et Cournon, ça fait 11e et 13e. Ou 12 et 14, je ne sais plus.
Oui, puisque Cournon a
fini
dernier.
Donc, on n'avait pas fait un super début de saison non plus. Et puis après, bon, c'est ce qui est
peut-être
arrivé.
Les saisons sont très longues.
Les saisons sont très longues. Et on l'a bien vu, c'est dans le Money Time qu'il faut y être aussi. Quoi. Bien sûr, il ne faut pas lâcher trop de plumes avant, c'est évident.
Et oui, on l'a vu l'an dernier. Hein, on a lâché trop de plumes au départ.
C'est pas inquiétant. Je ne suis pas inquiet du tout.
Il y a un aspect qu'il faut absolument préciser. C'est que, comme tu le disais, Laurent, il faut absolument oublier ce qu'on a vu l'année dernière, en particulier ces équipes d'Auvergne, hein, Cournon, Chamalières, même les équipes corses qui venaient en Lozère. On a le souvenir de cette équipe de l'île Rousse qui était assez fantomatique. Je pense que cette année, on ne verra pas ce type d'équipe. On se dirige vers un championnat Occitanie vraiment très relevé, très compact, avec des équipes qui sont quasiment toutes du même niveau et qui vont proposer des schémas tactiques, en particulier à l'extérieur, comme on a vu contre Canet, avec hyper regroupés, qui misent tout sur la contre-attaque. Je pense qu'on va en revoir d'autres, et ça va être compliqué de forcer le verrou de ce genre d'équipe. Canet, un promu, champion de DH du Languedoc-Roussillon, qui monte en 1-3, ben, je peux vous dire, sacrée défense. Et pendant tout le match, alors peut-être à tort, c'était de l'intox, mais pendant tout le match, moi j'étais dans les tribunes, on était pas loin de certains dirigeants du Canet, ils faisaient que de répéter. Et ouais, on a 5 absents, 5 titulaires absents. Alors bon, vrai, pas oui, vrai en tout cas. Bon, mais on va avoir des oppositions, des effectifs, vraiment rien à voir avec certaines équipes qu'on a rencontrées l'année dernière.
Non, mais c'est évident parce que déjà la saison passée, on finit quand même meilleure attaque. Au niveau CFA2, on s'est fait remarquer dans le bon sens par rapport à notre attaque. Donc du coup, évidemment, les équipes elles bétonnent. Et donc du coup, c'est l'année dernière, c'était notre force de marquer beaucoup de buts. Là, on vient de se rendre compte qu'il a fallu attendre la troisième journée pour se dépuceler et marquer un but, quoi. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de matchs comme ça où ça va être cadenassé. Les équipes viendront chercher le match nul et puis qui sait, un petit contre et puis voilà quoi.
Julien. Non,
mais juste un petit mot aussi. L'an dernier, l'AFL était promue, donc il y avait peut-être un petit peu aussi cet effet de surprise. L'équipe n'était pas trop attendue et puis là, on se retrouve dans une poule Occitanie qui peut faire penser un peu à une super DH avec des équipes que Mende avait l'habitude d'affronter avant quand elle était en DH. Donc voilà, on connaît la qualité de Mende. Tout à l'heure, Patrick disait que Fadil avait l'habitude de mettre ses face à face. Je pense que Fadil Gourmand, il est connu dans toute la région par tous les défenseurs, tous les coachs.
Il a commencé blessé la saison.
Ouais, aussi. Oui. Et puis il va y avoir donc moins cet effet de surprise. Et puis, qui plus est, par rapport à la bonne saison de l'AFL l'année dernière, voilà, on va être attendu et ça va être, c'est sûr, beaucoup plus compliqué. Il va pas falloir s'attendre à une deuxième place immédiate. De l'AFL.
Alors, je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, je pense que Fadil a un avantage psychologique avant le match sur les adversaires, parce que au match à Fabregues, je traînais les oreilles un petit peu du côté des joueurs de Fabregues qui parlaient.
Tu traînais que les oreilles, ça.
C'est ça. Et effectivement, il ne parlait que de Fadil Gourmand. C'était vraiment le sujet de conversation. Et je pense qu'il a un énorme impact psychologique déjà sur l'équipe adverse avant le match.
Et de Laurent Julien aussi.
C'était au bar qu'ils en parlaient de Laurent.
Des Lilas. Allez, on passe vite. C'est déjà 1h-10 passé. La réserve a commencé par une défaite contre Andus, 3-1. Un mot rapide sur la réserve.
Oui, là aussi, un début compliqué. Je pense pas que c'était prévu dans ce sens-là. Bon, après, Andus, on sait, voilà, ils essayent de monter une grosse équipe avec un coach bien connu ici à Mende, puisque c'est Stéphane Sora qui a repris en main cette équipe. Bon, un début compliqué.
Avec des recrues de Marvejol.
Voilà, avec des recrues de Marvejol et Jimmy Le Terme. Qu'on a bien connu nous pendant cette épopée en coupe de France. Donc bon, et là aussi un championnat.
Il y a une défaite 3-1, il faut quand même souligner qu'on a eu pris un carton rouge dès la 30e minute, ouais. Ce qui quand même facilite plus l'adversaire, évidemment, même si c'est un carton rouge justifié, ça je veux pas rentrer là-dedans, mais on a joué à 10 trois quarts du match aussi.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce championnat va être hyper compliqué puisqu'il y aura au moins 4 clubs qui vont descendre. Donc il peut être même 5. Donc il va falloir prendre des points rapidement parce que sinon ça va être chaud.
Langogne a perdu 5-3 contre Vichy. Il y a eu des buts là pour la première journée championnelle de Régional 3.
Réserve de Vichy.
Contre la réserve de Vichy.
Il menait 3-2 en plus.
Il menait 3-2. On va suivre bien sûr ce club langonnais. En Auvergne, première journée Régional 2. Le NL est défait à domicile contre Vergonjon. 3-1. Donc voilà, première journée, première défaite. On va espérer que ça aille mieux que l'an dernier. Un gros championnat départemental aussi. Donc on va essayer là, chaque lundi, de faire un gros point dessus. Sachant que, bien sûr, nos amis de la Fédération Française de Football ne mettent pas à jour les résultats. Donc aujourd'hui,
C'est les clubs qui doivent le mettre.
C'est les clubs et les clubs, il va falloir s'y mettre.
Donc on peut lancer un appel justement aux clubs de vraiment mettre leurs résultats.
Avant de passer au championnat départemental, il y a aussi le Buisson qui joue un PHEB. Ils n'avaient pas de match ce week-end, donc c'est pour ça que...
Merci d'intervenir.
On n'oublie pas nos amis du Buisson qui nous écoutent aussi régulièrement.
Voilà, alors l'ENL, la réserve dans ce championnat départemental, perd 1-0 à domicile contre Aumont. Le Chastel perd 3-1 à domicile contre Marvejol. Et Badarou gagne 4-0 à domicile contre Chirac.
Et le Buisson gagne 2-1 contre Rieutort.
Rieutort. Et l'AFL, la 3
Un partout contre le Valdo.
Un partout contre Valdonès.
Ouais, ben, nous tous, on va arriver à avoir des résultats.
Voilà. Donc, on peut citer d'autres clubs. Il y a quand même, en fait, toutes les équipes qui jouaient en Garlozère l'année dernière. Donc, Saint-Georges, Chirac.
Non. Chirac, ils n'étaient pas. Non,
Chirac, ils n'étaient pas. Non,
c'est vrai. Badarou.
Badarou qui jouait un PHEB. Mm. Il y avait, donc, du coup, Florac, foutu de Lozère. Et Aumont. Voilà, je cherchais le quatrième. Donc, plus le Buisson qui descend de PHEB. Et donc voilà, ça fait une poule très relevée cette année. Ça va être un très bon championnat niveau lausérien. Donc d'après les échos que j'ai eus de par le président du club de Montrodin, le premier jouera un match de barrage contre une équipe de PHB. Alors, je sais pas si Patrick tu as les mêmes échos, mais voilà, ça sera un match de barrage contre une équipe de PHB pour accéder directement à la PHB pour le premier.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à celui qui va finir premier, puisque dans les premières discussions, c'est-à-dire toute l'intersaison, c'était assez clair, c'est-à-dire que le premier ne monterait pas, puisque quasiment aucun district ne voulait accepter le premier de ce championnat des DFL. Alors au début, c'est passé un peu quasiment inaperçu. Et puis, bon, on a commencé à en parler et les clubs ont vais le dire, hein, ont commencé un peu à se réveiller avec les instances et donc on s'acheminerait quand même vers une solution de permettre quand même à ce champion de départemental 3 d'accéder quand même au niveau départemental 2, c'est-à-dire l'ex-PH, en fin de saison, qui est au moins la possibilité. Parce que on est le seul département en France où justement on est départemental 3. Dans tous les autres départements, le plus haut niveau c'est départemental 1. Donc c'est ça aussi.
C'est-à-dire avec accès direct en DHR, ex-DHR.
Voilà. Donc c'est ça qui nous plombait un peu, parce que on peut comprendre que les clubs ne veulent pas accéder directement au niveau régional, ça on peut le comprendre, mais au moins qu'ils aient la possibilité d'accéder à un niveau départemental plus élevé que ce qu'on joue ici en Lozère. Donc il y a cette possibilité de barrage, je m'en réjouis, j'espère que ça va se confirmer, parce que c'est vrai que si le champion ne peut rien faire, ça paraît un peu problématique.
Ça, tu t'en réjouis, ça reste scandaleux, quoi. T'es champion, tu peux pas monter, il y a un barrage pour peut-être te permettre de monter.
C'est mieux que ce qui était prévu à l'origine. Alors ouais. Après, est-ce que les clubs veulent aussi monter au niveau supérieur?
Mais comme tu dis, on leur reste le choix, à la limite, ils veulent
donc
pas.
Donc après, c'est un match de barrage sur terrain neutre à Alès ou à...
C'est le privat des vieux.
Ouais, c'est pas des vieux.
Non, je rigole. J'en sais rien si c'est sur match aller-retour.
On verra ça.
Ça serait plus juste.
On va suivre ça avec attention. On va terminer cette page foot et avant la pause musicale en donnant les rendez-vous. Car ce week-end, c'est match de Coupe de France pour l'AFL, Badarou, Le Buisson, Le Chastel et l'ENL. Pour ce troisième tour de Coupe de France, l'AFL se déplacera à Portiragne en DHR. Mmh. Hein, c'est ça,
Portiragne.
C'est bien, c'est un bon club pour
DHR, tirer. C'est, tu peux toujours avoir des surprises. Normalement, ça va le faire, c'est évident. Mais il faut toujours se méfier.
Il y a un match énorme entre Le Chastel contre Narbonne. Donc Narbonne qui est dans la même poule que l'AFL. Donc on imagine là tout l'écart qu'il y a entre ces deux clubs. Donc un événement, incontestablement, la fête au Chastel. Exact.
Voilà, l'AS Canet pour Badarou.
Et en plus, avec un terrain quand même qui est à l'avantage des joueurs du Chastel ou désavantageux pour les joueurs de Narbonne. Donc, il peut y avoir peut-être pas une surprise, mais des difficultés pour les joueurs de N3 aussi.
Ouais. Donc, l'AS Canet pour Badarou, c'est ceux qui sont avec Mando.
Non,
pas du tout.
C'est un autre club.
C'est un autre club, donc d'accord. Trappel pour Le Buisson dans l'Aude. Et en fait, le NL se déplacera à Paul Mignac, départemental 1. Voilà.
Je te rappelle, c'est à Villemoustoussou. Si vous ne connaissez pas, c'est à côté de Carcassonne. C'est à banlieue de Carcassonne.
Le rugby connaît bien.
Voilà. Et comme donc,
dirait, sympathique terrain de rugby.
Comme dirait Aurélien, attention au vent.
Hein, oui,
exactement.
Habitué. Allez, on fait une pause musicale. Tiens, avec Akhenaton pour penser un peu à l'OM Champions Project et à ce beau mercato dont nous parlerons peut-être si nous avons le temps en fin d'émission.
Case claire, case sombre, l'histoire du métèque et mal et du jeu d'échecs. Je suis un 100% métèque, importé
parler d'un pays sec. Jadis vulgaire, plomb passé de pièce maîtresse du jeu d'échec. Et si l'obscurité de ces mots encombre, c'est Dieu qui l'a voulu, j'ai dû trop jouer sur des cases sombres. En fait, mon équipe se respecte, c'est tout. Pas de pion, pas de roi, pas de reine, que des fous. Tous partis sur un échiquier pourri. 20 ans plus tard, ils ont atterri sur du lapis-lazuli. Ils disaient ce sont des ramasseurs d'oranges. Des naïfs, mais pas un faisait de marque devant des calibres et des canifs. La prolatinité et mon rôle pas étonnant venant d'un napolitain d'origine espagnole. Les surnoms dont Jacob reflétait bien l'époque. Je suis l'un de ceux qui clairent nos mains nègres de l'Europe et j'en suis fier. Peut-être sommes-nous trop coléreux, mais le respect est sacré, on n'appelle pas nos parents des vieux. Cousin, si tu changes de camp, mon pauvre, nous te rappellerons le temps où tu avais encore la morve. Elle te sera racontée comme une fable grecque, l'histoire des médecins, maths et du jeu d'échecs. Nous avons subi la loi des visages pâles, car Matt est le médec pour 10 balles. Accompli les tâches et les travaux les plus sales, car Matt est le médec fasciné par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans nos sacs d'un médec et Matt. On dit que les jeunes ambitieux qui sont les seuls de ces quartiers gris à s'en être vraiment sortis. Peut-être est-ce vrai, mais je préfère évoquer le fait d'être heureux de ce que l'on est petit. On me racontait l'histoire de truands de boss qui pouvaient saigner 3 mecs, puis bouffer des pâtes en sauce Scarface. Le film est sorti, puis il a vrillé l'esprit de beaucoup de monde et moi y compris. Tu venais voir chez moi, on te disait intra, intra, pana. Bienvenue chez Tony Montana. On nous a fait croire que l'on était des merdes et à force on l'a cru. Le stéréotype a pris le dessus, aucun héros à notre image. Que les truands, l'identification donne une armée de chacal puant. Donc le médec est un pur produit génétique de réactions racistes et de pays en Afrique. Méfiez-vous de l'eau qui dort ou dormir est dans l'eau. Inimitié sincère du plus cruel des Tsengaros. De nouvelles pièces arrivent, la défense éclate en échec par des médecs et maths. Et c'est foutu pour toi mon gars. Nous avons subi la loi des visages pâles, car maths est le médec pour 10 balles. Accompli les tâches et les travaux les plus sales, car Matt est le médec fasciné par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans nos sacs d'un médec et Matt. Fini le temps où les basanés étaient des esclaves, les pauvres larves sont sortis de leurs enclaves. Les uns ont engendré une génération d'ingénieurs, les autres des crapules attendant un monde meilleur. Mais les aspirations sont les mêmes, fonder un foyer, trouver une femme qui les aime sans problème. Mais l'oppression de la société est telle que riche ou pauvre ils pèlent et en gardent des séquelles. Numéro 7 la condamnée, pourtant ça t'y déroule. Être agressif de nos jours devient de plus en plus cool. Tu chahutes fort dans la masse, mais que feras-tu quand une équipe de fondus te tombera dessus? Les valeurs changent, les gens s'en foutent. Pourquoi faut-il que le respect s'enseigne avec les coups? Ou un de plus donné est une victoire. Mais je te tourne le profil bas à la manière de mon ami appelé Noir. Tu dis ne pas avoir de scrupules, tu mens. Et tu peux croire un des ex-prisonniers de l'aimant. Et si je retombe quand tu t'emploies à tes coups bas, il y aura toujours un médecin pour s'occuper de toi. Nous avons subi la loi des visages pâles, car Matt est le médec pour 10 balles. Accompli les tâches et les travaux les plus sales, car Matt est le médec fasciné par le mirage des idéaux de modernité. Nos peuples se sont acculturés, c'est pourquoi la fierté demeure toute seule dans nos sacs d'un médec et Matt.
Allez, c'est reparti, on va parler du MVL maintenant, du volley. Alors de l'actualité pour ce premier instant sport, hein, avec cette conclusion navrante de la saison dernière pour le MVL et cette non-montée. Tu peux nous rappeler un peu, Patrick, le déroulé de la fin de saison dernière et l'entre-saison surtout.
Donc le MVL a terminé second de ses playoffs d'élite, Donc les deux premiers devaient accéder à la Ligue B. Avignon premier, lui jouera en Ligue B. Et malheureusement, le MVL a été recalé pour une question de règlement, puisqu'il fallait, on l'a répété toute la saison, mais il fallait en début de saison cocher cette fameuse case en disant que on voulait monter et surtout se donner les moyens financiers au niveau des contrats pour espérer monter en Ligue B. Donc le MVL a longtemps cru que, ayant gagné sa place sur le terrain, la fédération et la Ligue allaient faire une exception et dire « bon ben oui, personne ne respecte le règlement à part Avignon et donc vous êtes l'équipe la mieux classée et on va quand même vous faire accéder en Ligue B ». La fédération et la Ligue ont été inflexibles, ils ont respecté le règlement à la lettre, le MVL a pensé un certain temps se battre, ils ont contacté des avocats, il y a eu tout un tas de référés qui se sont faits, mais au final, le règlement est tel qu'il est, et donc le MVL jouera en élite cette saison, au même niveau que l'année dernière.
En plus de cette fameuse croix qui n'était pas cochée, il y avait un problème aussi au niveau des contrats semi-professionnels ?
Ouais, il faut pas arriver. Le MVL, on peut le dire, puisque les chiffres ont été divulgués lors de l'Assemblée Générale et que je les ai publiés, donc il n'y a rien de secret. Le MVL avait 250 000 euros de budget la saison écoulée. Donc si elle avait respecté le règlement en signant des contrats professionnels et donc en se mettant en position d'accéder à la Ligue B, il fallait au minimum 150 000 euros de plus, c'est-à-dire monter à 400 000. Et donc il était impossible pour le MVL de trouver 400 000 euros sur la saison qui s'est écoulée. Alors c'est vrai que là on entend tout, ben ils avaient qu'à cocher la case. Ben oui, c'est sûr qu'ils avaient qu'à cocher la case. Mais quand tu coches la case, il y a tout un tas d'incidences derrière. Et donc voilà, il faut bien comprendre donc que
juste pour compléter, oui, il fallait au moins 4 contrats pro,
c'est ça,
un entraîneur,
c'est
pro,
ça, c'est et ça. Des conventions avec les médecins, les kinés,
un personnel administratif à temps plein.
Tu as tout compris.
Et donc du coup, je crois savoir que le club s'est mis à jour cette année pour enfin cocher la case.
Tu fais bien de le dire, Laurent, puisque j'allais y venir. Donc si on parle maintenant de la saison qui arrive, le MVL a coché la case et donc se met en position d'accéder en Ligue B l'année prochaine. Mais le règlement étant pareil, il va falloir qu'on finisse dans les deux premiers des playoffs.
Sachant que cette année, sur 8 équipes, il y en a 7 qui ont coché la case. Alors que l'année dernière, il n'y en avait que 2 qui avaient coché la case. Donc la fameuse équipe qui monte.
Oui.
Et le dernier, Calais.
Rouen, qui a fait forfait général. Donc, Calais n'avait pas coché la case. Ah. C'était Canteleu, le fameux club de Canteleu, mais enfin, qui est à la banlieue de Rouen, qui eux avaient coché la case, mais qui ont fait les play-down et qui, en plein milieu des play-down, ont fait forfait général, puisqu'ils n'avaient plus d'argent. Donc c'est vrai, comme tu le dis, il y aura une position beaucoup plus ardu dans la saison qui s'annonce.
Ça veut dire que beaucoup de clubs ont des envies de monter.
Voilà, des arguments.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, j'ai eu notre ami Christian Barthier au téléphone ce matin. Et donc, c'est un fidèle auditeur, je sais qu'il nous écoute. Et donc, on a fait un peu le point sur ces équipes. Et donc, il y a de véritables armadas cette année. Le MVL a fait aussi ce qu'il fallait pour augmenter le niveau de son équipe. Mais les autres clubs ne s'endorment pas. Et donc, je vous annonce déjà des clubs immenses comme Saint-Jean-d'Illac, comme Fréjus, comme Épinal, comme Martigues qui descend de Ligue B. Alors écoutez ça, Martigues descend parce qu'il faut 70 licenciés hommes, et donc Martigues n'en avait que 60, et donc la fédération, là aussi, intraitable. Donc d'un côté, c'est quand même rassurant, parce qu'ils ont été intraitables avec Mende, mais ils n'ont pas été intraitables qu'avec Mende. Ils ont été aussi intraitables, par exemple, avec Martigues. Et donc Martigues, alors qu'ils s'étaient maintenus sportivement en Ligue B, descend en élite parce qu'il manque 10 licences garçons. Au niveau des jeunes.
Et puis on peut aussi remercier l'équipe de Strasbourg qui nous a bien cassé du sucre sur le dos, cette bande de nazes, qui au final repart
en élite
comme nous. Alors qu'ils nous ont mis des gros bâtons dans les roues, cette bande de...
On ne dit pas.
Voilà. Donc il y a de gros clubs qui se sont vraiment renforcés, et donc on va assister à un championnat de toute beauté cette année, même là aussi le niveau augmente par rapport à l'année prochaine.
Et du coup, on peut peut-être le dire, mais le club s'est mis à jour d'un point de vue administratif, comme on disait. Et puis, je crois savoir que cette personne,
on le connaît bien.
Eh ben, on le connaît bien puisqu'elle est à l'Instant Sport. C'est notre ami Julien. On pouvait le dire. Fais le timide là.
Non, je ne fais pas timide. Un petit moment.
J'allais parler du recrutement. J'allais y venir.
Alors, il a recruté pas pour faire des services qui se matchent. Non, ça c'est sûr.
Je suis pas du tout dans le sportif, moi. Non, mais oui, voilà, il fallait se mettre à jour et c'est vrai que par l'intermédiaire de Patrick, après des discussions qui n'ont pas été très très longues à me convaincre, puisque de par ma formation, de par mes envies de travail, c'est un poste qui me va à merveille. Donc voilà.
Alors, c'est quoi ce poste?
Pom-pom girl.
Mascotte.
On en a parlé.
Mascotte à Piancourt. Non, je vais être en charge de toute la communication du club, donc gérer le site internet, gérer les réseaux sociaux, balancer 2-3 vannes sur Facebook.
Parfait.
Tout ce que je sais faire. Plus, bien évidemment, tout ce petit côté administratif qui est indispensable pour la bonne vie du club. Et donc, c'est avec grand plaisir que je me lance dans cette aventure du MVL. En espérant grandir le plus vite possible.
Ça, plus laver les maillots, couper les citrons, enfin tout ce qui va avec.
C'est ça. Un mot sur les recrues là, du MVL.
Alors les recrues...
qui ont été recrutés avant de savoir qu'ils ne montaient pas. Donc c'est quand même un recrutement pour faire face à la Pro B.
Exactement. Donc deux nouveaux passeurs. Donc le passeur numéro 1, il s'appelle Paul Cooper. Et donc il joue à Saint-Quentin en Ligue B l'année dernière. Et donc un passeur numéro 2... un jeune grec international des moins de 21 ans qui jouait en D2 dans son pays et donc qui va connaître sa première expérience en France. Donc deux nouveaux passeurs, on sait que c'est un peu les maîtres à jouer, donc un jeu qui s'annonce totalement différent de ce qu'on pouvait proposer l'année dernière. Et puis après il y a le retour de Kevin Velay, bien sûr, qui a connu une année noire à Calais puisqu'il descend en N2. Et donc, qui revient chez lui à la maison et qui vient se relaxer pour amener un gros plus, en particulier au niveau de la réception. Il sera sur un poste que Ali Carboa pour ceux qui viennent au match. Et donc, c'est un vrai plus pour l'équipe. Et puis, enfin, là aussi, une vraie surprise, un Brésilien de 2m06. Alors là, je vous le conseille, qui jouait en Israël, en première division en Israël, meilleur contreur du championnat d'Israël. Et donc attention, il saute pas très haut d'après ce qu'on m'a dit, mais
enfin, il part déjà de haut.
Et immense contreur, et vraiment on a l'impression qu'il est un peu lent, mais toujours bien placé. Et donc voilà, 4 recrues. Bon, on perd les deux passeurs aussi, puisqu'Angelo Teno retourne chez lui à Arles, et puis Boris Takaniko a signé à Cambrai en Ligue B.
Il paraît qu'il arrivait à bloquer au-dessus du mur des lamentations.
Et donc voilà, Ninao, notre Brésilien Ninao. Et donc, voilà, après on parlera des matchs amicaux, mais je laisse la parole à Laurent qui boude d'impatience.
Tu m'as coupé l'air sous le pied. C'était juste pour dire que moi j'étais déçu que le club n'ait pas pu conserver notre ami Angelo Teno, qui était le capitaine de cette équipe et puis qui était un super garçon aussi, en plus d'être doué au volleyball. Voilà, bon, mais je lui souhaite bonne continuation. Il est retourné dans son pays, dans le sud, et bon, mais c'est dommage qu'on l'ait pas gardé un peu plus.
Allez, avant de parler des matchs de préparation, un mot sur la réserve en pré-national, Julien, qui compte monter cette année.
Oui,
j'ai entendu ça.
Cocher la case.
Il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin de case. Non, mais c'est vrai que tout d'abord, déjà, c'était réserve qui est en pré-national pour, dans un premier temps, réduire l'écart aussi avec l'équipe 1. C'est toujours intéressant quand ton équipe réserve est un peu plus proche de ton équipe 1. Et il va y avoir quelques redescentes.
Je ne sais pas si c'est si intéressant que ça, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire jouer des joueurs de la 1 à 2.
Oui, mais si des joueurs de la 1 qui n'ont pas trop le niveau, qui ne jouent pas trop, je pense que c'est plus motivant pour eux d'aller jouer en N3 plutôt que pré-national le week-end.
Oui.
Mais en cours de saison, tu peux pas le faire, ça.
Ouais, non, mais regarde, tu sais qu'on a un coach constant qui est toujours dans presque une longueur d'avance, mais c'est un peu vrai, quoi. Et donc, il y a quelques années, il a recruté Moussé Gueye et notre ami Chaillou, Anthony Chaillou. Et donc, quand il les a pris, il savait très bien que c'était pas pour l'équipe 1. Donc, il les a mis dans l'incubateur qui était l'équipe 2 pendant un an. Et donc, cette équipe, il les a mis en équipe 2, mais c'est l'équipe 2 qui était en pré-national. Donc, Constant se dit, des joueurs comme ça, moi j'en connais plein, Mais au lieu de qu'il passe un an en pré-national, il vaut mieux qu'il passe un an à 1-3 parce que le niveau sera plus élevé. Et donc moi, quand, au bout d'un an, quand je vais les récupérer dans l'effectif de la première, ils auront un an de 1-3 plutôt qu'un an de pré-national, ce qui sera beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi le club pense, à mon avis à juste titre, qu'il faut que cette réserve joue à 1-3.
Les féminines sont dans le flou par contre, problème d'effectif notamment.
Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout de nouvelles par rapport au.
On va demander à Laurent.
Oui, elles sont dans le flou, elles n'ont pas encore attaqué la saison, et puis ça viendra. C'est un peu comme l'équipe du Buisson, ils n'ont pas encore attaqué.
Voilà. Et comme les féminines de l'FL Badarou.
Voilà.
Voilà. Qu'on salue et qu'on invitera avec plaisir cette année encore. Match de préparation MVL Arles le 26 août, perdu 3-7-1.
C'est pas content.
C'est pas contre Arles. C'est contre Arles si je veux, monsieur. Voilà. Bien
si, mais il y a eu des matchs. Il y a eu deux matchs contre Arles. Donc Arles qui jouait à 1-2 avec deux victoires 3-0 du MVL. Il y a un écart d'une division, donc un gros écart. Donc victoire logique du MVL. Et puis par contre,
c'était
la défaite.
Martigues.
Arles où est allé jouer Angelo.
Et il y a un autre ancien Mandois avec Georges Carry qui déjà l'année dernière jouait à Arles et donc qui continue cette année. Et donc les deux passeurs d'Arles, enfin je sais pas si Georges, en principe Georges joue passeur aussi, mais en tout cas les deux passeurs d'Arles étaient à Mende il y a pas si longtemps. Et donc cette défaite, tu l'as dit, il y a eu une sorte de match aller-retour contre Martigues. Donc le match aller était à Martigues, défaite 3-1. Alors papy m'a expliqué un peu ce qui s'est passé du côté de Martigues. Il y a une énorme prise de risque au service avec énormément de joueurs qui servent ce matchier. Et donc on a été en danger au niveau de la réception suite à ces services de ce match, et donc une défaite 3-1. Et donc là il y a eu le match retour qui s'est déroulé à Mende, et donc là victoire 3-1 du MVL, premier set pour Martigues, toujours impressionnant au service, et puis on a quand même enclenché la dynamique, et donc on a gagné les 3 sets suivants. Donc Martigues, énorme équipe qui veut absolument remonter en Ligue B, et qui a gardé quasiment tous ses joueurs sauf le libéro, beaucoup d'étrangers, beaucoup de bons français, ça sera une grosse équipe. Et d'ailleurs, dès la première phase, on est dans la même poule que Martigues.
Allez, premier match du MVL, ça sera quand?
Le samedi 23 septembre, à domicile, contre Grenoble, premier match de championnat.
Allez, en passant par rapport à l'an dernier, le MGC qui s'est maintenu, on le rappelle, des recrues qui arrivent plus tôt dans la saison. On savait que l'an dernier, ça avait été un problème. Beaucoup de recrues, hein, Laurent, sur cette équipe du MGC.
Beaucoup de recrues et pas mal de départs aussi.
Voilà, Lorenz Leandri, jeune ailier droit, gaucher, 1m88, 75 kg comme moi, qui arrive d'Aubervilliers où il évolue en National 3 depuis l'âge de 17 ans. Ensuite, Omar Baradji.
Toi, c'est 1m75, 88 kilos.
C'est dans votre sens. Omar Baradji, 22 ans, 1m95 pour 80 kilos, formé au pays d'Aix-Handball, qui arrive de la région parisienne où il évoluait à Francoville en National 3. Après notamment être passé par National 1 du SMH Grenoble.
Quand il sera plus blessé.
Parce que là, il est blessé. Voilà. Demi-centre ou arrière-gauche. Andrei Dragici, nouveau gardien de but pour la saison à venir, qui vient de la Ligue 1 roumaine. 27 ans, 1m90, 92 kilos, même taux de muscle que Laurent. C'est un autre roumain qui rejoint le MGC en plus de Ravzan Letu. 24 ans, 1m93, 88 kilos, champion de Roumanie. Alors, ça en fait beaucoup, hein, qui arrive. Et enfin, Mathieu Daudet qui fait son retour dans les rangs du MGC. Formé à Mende, on se rappelle, hein, qui peut jouer demi-centre ou ailier gauche. Et un changement de coach avec notre ami Pascal Daudet qui passe la main à Yannick Perrin. Ça fait pas mal de recrues quand même, mais qui apparemment s'intègre bien parce que les matchs amicaux ont donné de très bons résultats jusqu'à présent.
Oui,
dont un tournoi qui a eu lieu ce week-end à la Vernette, tu y étais.
Ce week-end, il y a eu une belle victoire à Rodez aussi contre une N2.
Où le gardien a fait très forte impression.
Qui descend d'un 1 en plus Rodez.
Ouais. Et alors du coup, c'est vrai qu'il y a de très belles recrues. Je pense notamment au gardien. Vraiment très bon gardien. Bon,
il est parti, notre gardien, le jeune là, qui était
ils sont toujours là. Hein,
il va bien apprendre en plus.
Oui.
Il y a Gaëtan plus le jeune Robin que tu
Robin Novaïs.
Qui est parti
Donc dans l'effectif, on perd donc les deux demi-centres, un de Saint-Flour et l'autre c'était Mounir, là je me rappelle plus son nom.
D'accord.
Mizouni.
Et donc ils sont partis voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Et on perd surtout notre ailier droit, le petit ailier droit, le gaucher, Kevin, le petit Boccanegro. Je pense que ça va nous manquer, ça c'est sûr. Bon, lui, il est parti pour d'autres raisons. Il est parti à Cournon.
À Cournon.
Qui jouera dans la même poule que nous.
Aïe.
Et Cournon qui a perdu hier en Coupe de France. On devait les affronter la semaine prochaine.
On jouera contre Aurillac.
Du coup, on jouera contre Aurillac. Mm. Et donc voilà, au niveau des recrues, très, très bon gardien. Enfin, pour l'instant, qui m'ont fait bonne impression. J'ai vu ce tournoi ce week-end, le gardien et le demi-centre. Donc son prénom, c'est Ravzan, ouais. Très très bon. Même le petit Dodé sur le côté là qui a remplacé l'ailier gauche pendant le match a été bon. Donc cette année, ça sera plus homogène. J'ai l'impression que le groupe vit bien. Les anciens qui avaient parlé d'arrêter, ben, finalement sont là. N'ont pas raté d'entraînement. Donc il y a cette année un aspect un peu plus physique. De par le nouveau coach, puisque tous les mardis les joueurs montent au Cos Doge et font pas de ballon, en tout cas ils courent, et donc c'est tout nouvel entraîneur qui remet tout à plat, puisque ce week-end pour le tournoi il avait pris des joueurs dits de l'équipe 2, donc qui
fait jouer la concurrence,
qui joueront peut-être sûrement en 2, mais ils étaient là. Et puis pour vous avouer, finalement le meilleur joueur que j'ai trouvé moi du tournoi, ben c'était François Velay, qui est autre que l'entraîneur de l'équipe 2, au poste de demi-centre. Il a fait un tournoi fabuleux, et donc ça a permis de créer un peu de dynamique, et je trouve que c'est bien d'avoir insufflé du renouveau dans le club.
Alors une poule compliquée hein, cette année, avec Saint-Égrève qui descend de National 2.
La fameuse poule 7.
La poule 7 qui d'habitude est un peu moins compliquée que les autres poules. Cette année, avec les nouvelles régions, c'est compliqué. Ouais, Saint-Égrève qui descend National 2, Avignon qui descend National 2, Bourgoin-Jallieu qui était deuxième de la poule 7 cette année, qui a perdu le barrage d'accession pour remonter en National 2, ouais. Valence qui est une réserve de National 1, L'Oriol qu'on connaît, Annecy, Fontaine qu'on connaît également, Cournon qui était champion de pré-national Auvergne l'an dernier, Saint-Égrève aussi, Firmini champion pré-national Lyonnais, Grange-Guilleron troisième de poule 8, Rhône-Hérieux-Ardèche champion de pré-national Dauphiné-Savoie, et Mende avec donc 5 déplacements dans l'Isère en tout. Poule compliquée cette année, ouais.
Oui, poule compliquée, à mon avis.
Pas que cette année.
Plus compliquée que les années précédentes.
Plus compliquée que l'an dernier, je pense.
Et donc, on verra, mais je pense que les dirigeants se sont donné les moyens avec un recrutement, c'est vrai, qu'on n'avait pas vu depuis un certain nombre d'années. Ça va apporter, à mon avis, un vrai plus. Et moi, je suis confiant sur cette année du MGC. Je pense qu'on est reparti sur une dynamique. À mon avis, on verra. Hein. Les matchs, après, c'est la vérité du terrain, comme dans n'importe quel sport.
Ouais, donc ce week-end, il y avait un tournoi à Mende, là, où il y avait une équipe de Prénat de Lyon, Lyon-Caluire, qui est une, c'était l'équipe réserve de N2, je crois, ou N3, je ne me rappelle plus. Donc là, c'était l'équipe réserve. Il y avait la N3 de Prades, le Lesse. Et donc, le coach a fait tourner. Il y a eu des résultats intéressants. Et voilà, c'était très bien, une bonne mise en jambe là pour le club, et puis pour aussi les supporters du club du MGC, puisqu'il y a un club de supporters qui s'est créé cette année à Mende, et donc ils s'étaient mis un petit peu dans l'ambiance aussi, c'est bien, ça met de la dynamique. Voilà.
On va vite voir si la mayonnaise prend, puisque les choses sérieuses commencent ce samedi, je crois, avec le match de Coupe de France contre Aurillac. Ouais.
Et dans samedi deux semaines, le début du championnat, L'Oriol.
Début du championnat.
Ça y est, les choses sérieuses commencent.
Voilà, les loups jaunes, tu parlais. Voilà, c'est ça, c'est les loups. Le groupe de supporters, vous pouvez joindre Jérôme Salle, qui en est le président. C'est 20€ cotisation par personne, t-shirt, écharpe compris dans la cotisation. Dès la première journée, contre, 90 personnes ont adhéré, donc ce qui est
90 personnes, par contre, il faut savoir chanter pour intégrer. Parce que la salle résonne, donc il faut savoir chanter.
L'école de hand, il faut en parler ce samedi 16 et samedi 23, des tournois ouverts aux enfants 2010, 2011, 2012, 2013, qui permet de tester l'activité avant de prendre la licence définitive, qui les cours reprendront en octobre 2017. Donc voilà, c'est important d'en parler. Les féminines, on ne sait pas encore si elles sont assez nombreuses, si elles sont reparties.
Oui, les féminines, elles ont attaqué ce week-end, elles ont fait un tournoi du côté de vers Clermont-Ferrand. Et donc elles sont reparties, elles n'ont pas encore attaqué leur championnat, comme le Bisson, comme les joueuses du volleyball.
D'accord.
Et du foot.
Et la réserve ? donc qui n'a pas attaqué vu qu'il jouait ce tournoi.
La réserve, donc ils montent de division.
Oui, ils montent de division.
Et donc ils vont jouer un excellent, alors comment ça s'appelle, excellence régionale. Donc avec des déplacements intéressants. Donc
par exemple,
Juvignac, AS Béziers, Thuir, Bagnols, Aramon, Palaja et puis attendez, excusez-moi, Terra, Montpellier, le MUC et Pays Viganais ainsi qu'Argelès. Voilà, donc ça va être au programme de jolis petits matchs.
Ok. Eux n'ont pas repris, on sait qu'ils reprennent plus tard le RCML. C'est quand, Patrick, à peu près la reprise?
Le premier match du championnat, c'est début octobre.
D'accord, donc on ne peut pas trop parler du RCML encore.
Ce qu'on peut dire, c'est que le coach, bon, pour ceux qui ont suivi, j'avais aussi interviewé le coach en fin de saison dernière, et il pensait qu'il y aurait une poule beaucoup plus étoffée, beaucoup plus intéressante que celle de l'année dernière. On parlait presque d'une poule à 12 équipes, et puis au final, ben, ça sera 9 comme la saison dernière, avec pas mal de clubs qui n'ont pas voulu intégrer ce championnat honneur. Donc on est sur le même format, tout à fait identique à celui de la saison passée.
Voilà, moi j'ai rencontré le coach récemment, donc il m'a dit qu'il y aurait, alors bon, pour l'instant, pas forcément de nouvelles recrues, de nouveaux visages dans l'effectif, si ce n'est qu'il va intégrer des jeunes juniors qui ont un très bon potentiel. On sait que le RCML a une bonne école de rugby, et donc il va intégrer quelques bons jeunes en seniors. Et il dit que ça va être très intéressant. Et bien sûr, je lui ai rappelé, sans lui mettre de pression, qu'il va falloir gagner les matchs à l'extérieur cette année. et donc, il m'a fait un petit sourire. Il était d'accord.
Ok, on va bien sûr suivre attentivement cette saison du RCML. Et les petits nouveaux qui reviennent. Allez, on va pouvoir s'éclater cette année dans l'instant sport. Le BCM, qui a pris une année de transition, va peut-être refouler les parquets. Alors là, c'est pareil, hein, c'est encore les questions administratives. Aurélien va nous en apprendre plus tout de suite. Qu'est-ce qui se passe alors pour le BCM?
Alors, bon, on ne sait pas encore s'il va y avoir un championnat, puisque l'an dernier, on n'a pas eu de championnat, puisqu'on avait demandé à intégrer le championnat départemental du Gard, qui nous avait refusé. Donc cette année, avec la nouvelle région Occitanie, on a demandé cette fois-ci à l'Aveyron, pour intégrer leur championnat départemental. Et là aussi, ça grince un petit peu des dents du côté de l'Aveyron, puisque les clubs ne sont pas trop d'accord pour faire un déplacement dans la saison du côté de Mende. Donc ils doivent faire une réunion lundi prochain, il me semble, pour décider.
Mais en plus, on leur demande pas d'être d'accord ou pas d'accord, c'est le règlement. Et on fait partie de la même région.
Oui,
je
mais
vois pas pourquoi ils doivent donner leur accord. Là.
Parce qu'ils disent aller dans le Gard.
Mais...
C'est ça. Ils se balancent la patate chaude.
Mais quoi qu'il en soit, il faut que.
Effectivement, la nouvelle Ligue Occitanie a un petit peu les mêmes idées que toi, c'est-à-dire qu'ils veulent promouvoir le basket dans tous les départements d'Occitanie. Ils ne veulent pas qu'un département n'ait pas de championnat. Donc, effectivement, ils mettent un petit peu la pression aussi sur l'Aveyron pour nous accepter. Mais ils doivent faire une réunion avec les clubs pour savoir s'ils nous intègrent ou pas, en sachant quand même qu'il y a une petite pression de la Ligue. Alors au départ, ils nous avaient demandé à ce que les matchs à domicile, on les joue en fait du côté de Sévérac-le-Château ou Rodez, etc. Donc, ce que bien évidemment on a refusé pour...
Tu jouais tous les matchs à l'extérieur.
Un canon, voilà. À la rigueur.
Exactement. Et ce qui veut dire qu'en plus c'était pour nous des matchs à domicile, même s'ils étaient à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on devait... Donc c'était à nous de payer les arbitres, on devait louer une nouvelle salle, apporter les responsables de salle, etc., les gens qui font le chrono.
Ils sont géniaux, ces Aveyronnais.
Donc c'est vrai que c'était pas jouable, on a bien évidemment refusé. Donc on en saura un petit peu plus la semaine prochaine.
Sachant qu'une section féminine va peut-être se remonter aussi, c'est en cours. J'ai vu que
voilà, il y a un appel pour voir si des joueuses veulent intégrer un championnat. Donc pour l'instant, on ne sait pas.
Voilà, sachant qu'il n'y a plus le coach Crespon pour les driver, donc on pourra peut-être avoir plus difficilement des féminines qui viennent incorporer cette session. Voilà pour le BCM, le RCML. On a fait le tour pour cette nouvelle saison. On reviendra avec des invités dès la semaine prochaine. Et c'est reparti hein, pour une saison. Il nous reste 2 minutes, donc on ne va pas parler du mercato. Hein. Ça serait trop long, Patrick. Quoique le mercato marseillais, c'est assez rapide.
C'est suffisant. Ouais,
non, il me plaît, moi. Il me plaît, carrément.
Il te plaît ?
Non, il me plaît.
Ah,
Bah, avec c'est le bien, grec, alors. Le grec qui va nous enflammer. Ouais, là, on va manger des sandwichs grecs maintenant.
Un grec à 15 millions d'euros.
Il doit être bon, hein, ça doit être le meilleur grec.
Coûte 5 euros d'habitude.
C'est du bon Soulakis là qui va arriver. Non, c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un bon recrutement.
C'est un bon recrutement. Ceux qui pensent qu'on est le Qatar, ben voilà, il faut qu'il devienne supporter de Paris.
Tu te rends compte qu'on avait William Benker qui est à 700 000 euros. Il a été vendu. Il a été acheté par un club grec justement.
Turc. Les Turcs, ils achètent tout le monde là.
Ouais. Ils ont dû payer au black alors du coup.
Non, faut pas dire ça.
Ça marche pas comme ça.
Allez, bon, on se quitte de suite. On se retrouve lundi prochain sans Lolo qui est en vacances. Ouais. Tu reviendras dans 2 semaines.
Voilà,
pour recevoir le karaté dans 2 semaines.
Karaté.
Voilà.
Prépare-toi.
Super.
Prépare-toi. Donc t'as une semaine
karaté,
pour te mettre.
Karaté, c'est la danse. Là. C'est ça, comme t'avais dit l'année dernière. La
danse. C'est ça, okay. Exactement. Et la semaine prochaine, je sais pas, on va voir et on vous rappelle qu'il y a le forum des associations ce samedi pour rencontrer justement tous les clubs sportifs mandois pour choisir une activité pour la saison qui arrive et on ira faire un tour au forum des associations pour prendre des contacts un peu pour mardi prochain.
Oui.
Vélivol d'Écosse ou un truc comme ça peut être sympa. Toi, tu n'étais pas là, mais.
Non, moi, je suis pas là.
Allez, ciao les gars, merci.
Allez, ça va.
À la prochaine.
Les Street John au couloir numéro 2, allez les Street, c'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tapis-apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde, au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
T'as dit apéro ?
Allez Louis ! Allez mon petit bonhomme !